Queen and Slim, un film de Melina Matsuka avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner Smith, Bokeem Woodbine, Chloé Sevigny, un film dont Justin va nous parler.
Can I ask you something? What took you so long to respond to me?
I didn't feel like being alone. Not tonight.
So you turned to Tinder. What made you pick me?
I liked your picture. You had this sad look on your face. I felt sorry for you.
Damn.
You made a playlist? That's cute.
Don't go through my phone. So what happens tonight?
You're gonna drop me off and then you'll go home, I guess.
Oh.
Did you think we were gonna have sex?
Nah. No.
You failed to execute a turn signal back there.
Oh, my bad.
Step out of the vehicle.
Can I ask why, officer?
No, you may not.
Put your hands on your head and get on the ground now.
Are you serious?
Get on the ground!
Why is he under arrest?
Get back in the car!
I am an attorney.
Damn,
I'm
just
reaching for my cell phone!
Queen and Slim, donc c'est un premier film donc de Melina
Matsoukas.
Et donc c'est un film qui, donc, au niveau de l'histoire, qui débute sur un rendez-vous Tinder entre deux jeunes afro-américains dans un snack, donc qui se passe plus ou moins bien, qui n'est pas amené à avoir de suite. Et donc lorsque le garçon, donc je précise, les personnages, on ne connaîtra pas leur nom de tout le film sauf à la dernière scène. Donc du coup, Queen and Slim, c'est une sorte de manière de les désigner par rapport à ce qu'ils vont représenter dans le film. Donc au retour de ce rendez-vous, le garçon va ramener la jeune fille chez elle. Ils vont être arrêtés par un policier. Un policier un peu tendance raciste, un peu violent. Donc l'inspection va déborder, va déraper. Le policier va être tué accidentellement suite à des violences de sa part. Et donc les deux personnages se retrouvent en cavale à travers les États-Unis. Et donc ça devient des sortes de Bonnie and Clyde Black aux États-Unis. Donc ils vont traverser le pays pour essayer de s'échapper. Le but, c'est de... Enfin, en tout cas, au cours du film, ils vont décider d'un plan pour aller à Cuba, s'envoler vers Cuba. La chose intéressante du film, c'est que donc, le scénario a été écrit à plusieurs mains. Donc l'idée du scénario vient d'un écrivain qui s'appelle James Frey, donc un écrivain blanc, ne se sentant pas légitime pour écrire sur un sujet comme cela, sur des Afro-Américains. Il va confier le scénario, en tout cas il va co-écrire le scénario avec donc Lena Waithe, qui est une scénariste, apparemment, je ne connais pas, mais qui est assez connue pour son travail. Elle a eu des Emmy Awards pour la série Master of None, donc qui est noire, et donc du coup, il va y avoir cette coécriture du scénario qui fait que le film a une sorte d'équilibre, c'est-à-dire il parle des clivages sociaux, des brutalités policières aujourd'hui aux États-Unis, mais sans être vindicatif, c'est-à-dire il y a une sorte de nuance qui se fait dans le récit et qui est représentée par les deux personnages principaux, donc la fille qui est jouée par Jodie Turner Smith. D'après ce que les scénaristes en disent, ils ont voulu représenter les deux personnages principaux à travers Malcolm X et le révérend Martin Luther King, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils représentent dans le récit. C'est-à-dire que donc, la jeune fille Jodie Turner Smith représente Malcolm X, c'est-à-dire elle est vraiment très désabusée. Au début du film, elle raconte qu'elle est avocate, elle a un client qui va se faire exécuter injustement. Donc elle est très désabusée par rapport à la situation de la société américaine, très cynique. Donc lorsqu'ils seront en cavale, c'est vraiment elle qui va le prendre les devants. C'est même elle lorsqu'ils auront l'inspection avec le policier qui cherchera à se défendre, à pas se laisser marcher sur les pieds. C'est à cause de ça que ça va peut-être un peu déraper, mais en tout cas c'est elle qui prend les devants lors de la cavale, qui prend les décisions, alors que lui, ouais, qui est censé représenter une ouverture un peu à la Martin Luther King, est un peu plus naïf face aux événements, un peu plus dépassé, mais un peu plus ouvert aussi. Et donc au fil du récit, à travers leur cavale, les rôles vont un petit peu s'inverser, c'est-à-dire qu'elle, à son contact à lui, elle va devenir plus ouverte aux autres, elle va avoir un regard moins désabusé, puisqu'il y aura une sorte de rapprochement amoureux, alors qu'il n'était pas gagné au départ, je pense, sans les conséquences de ce qui lui arrive, le rendez-vous n'aurait pas débouché sur quoi que ce soit. Et lui, au contraire, va avoir une conscience plus grande de ce qui se déroule autour de lui, de la situation sociale, et sans que ce soit trop appuyé, c'est-à-dire c'est par des petits éléments subtils, par exemple au début du film, lors de leur premier rendez-vous, il y a le garçon qui est assez pieux, donc avant de prendre son repas, il va faire la prière, donc il va être regardé un peu de haut par la fille à cause de ça. Plus tard dans le récit, par rapport à tout ce qu'ils vont traverser, ils vont se trouver dans une situation où avant de déjeuner, c'est elle qui va proposer de prier, alors que je n'étais pas du tout quelque chose qu'on pouvait lui associer. Et lui, à l'inverse, donc c'est un garçon assez tranquille, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui est assez sage, qui va à l'église, et qui, à un moment donné du film, voilà, va boire de l'alcool, va fumer des joints. Donc il y a une manière de se décoincer, de se dérider aussi au fil du récit. Et la chose intéressante donc, par rapport à cette écriture à deux mains, et la réalisatrice Mina Matsoukas, qui, je crois, est noire, donc en tout cas cette écriture un peu mixte, il y a aussi un regard sur les États-Unis qui se fait beaucoup plus contrasté, c'est-à-dire c'est l'Amérique de Trump avec des racistes, avec des clivages raciaux, mais c'est pas appuyé, ça tourne même d'une manière un peu, on va dire, comique pendant le récit par rapport aux rencontres que les personnages vont faire. Donc il y a une rencontre avec un père de famille noir qui va scander des slogans un peu Black Panther dès qu'il va les reconnaître, mais de manière très cliché, juste pour le plaisir de scander, donc ça se moque un peu de cet engagement un peu gratuit. Il y a un autre moment où ça se moque de ce qu'on associe aux suprémacistes blancs amateurs d'armes, où il y a le personnage du garçon de Daniel Kaluuya qui va, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils veulent manger, il va aller braquer une station-service. Et là, en fait, c'est un jeune blanc, un white trash, qui va lui dire « Ah, mais il est bien ton flingue, fais voir, si tu me laisses regarder ton flingue pour voir à quoi il ressemble, le tenir en main, je te donne ce que tu veux gratuitement. » Donc, il lui donne, et puis effectivement, il repart avec ce qu'il voulait, sans qu'il y ait de violence ou quoi que ce soit.
Il donne le flingue quand même.
Il donne, oui, parce que c'est, comme je disais, c'est un personnage très naïf, très candide, et qui n'est pas vraiment violent, il n'y a pas cette nature-là. Donc, et puis finalement, ça se passe bien, il repart avec ce qu'il est venu chercher. Et donc, à l'inverse, parfois, la violence surgit de protagonistes dont on ne soupçonnerait pas. Par exemple, il y a un personnage de jeune adolescent noir qu'on croise à leur contact, il va peut-être mal interpréter la situation dans laquelle il se trouve. Et donc plus tard dans le film, cet adolescent va se retrouver dans une émeute où il va abattre peut-être gratuitement un policier. Et alors, donc du coup, ça rend la vision un peu plus contrastée, où la violence, voilà, la violence intrinsèque peut aussi venir des minorités par rapport à la méfiance qu'ils ont par rapport aux autorités, où là il va abattre un policier totalement gratuitement, et alors qu'à l'inverse, le couple va trouver refuge chez des blancs qui vont les héberger, qui vont les cacher. Donc il y a à chaque fois cette nuance où c'est pas si évident que ça, c'est moins manichéen que ça, même si les clivages existent, mais le regard est moins manichéen que ce qu'on peut se faire de la société américaine, finalement.
Moi, j'ai une question pour toi, parce que ça peut me faire penser un peu à Green Book, qui était un peu, que je trouvais d'un consensuel horripilant, pour le coup, sans être un film désagréable à regarder, etc. Mais j'avais l'impression de voir un film qui me disait « Oui, il y a des méchants blancs, mais des gentils noirs, et le contraire, etc. » Là, ça a l'air beaucoup plus nuancé, quand même.
Oui, c'est beaucoup plus nuancé que ça, parce que c'est... En fait, la vision évolue avec... l'évolution aussi des deux personnages principaux. Donc plus elle s'ouvre, elle a un regard moins cynique au monde, plus lui est un peu plus conscient, plus le regard, la description des autres change. Parce qu'au départ, on est dans le cliché, effectivement, comme je l'ai dit, dans les rencontres qu'ils peuvent faire, on est dans le cliché. Ça devient plus nuancé au fil du fait qu'eux, ils se rapprochent déjà, ils tombent amoureux l'un de l'autre, et puis ils ont un regard différent sur le monde qui les entoure. La mise en scène qui est intéressante, vu que la Melissa Matsoukas, je sais plus, je vais finir par bien le prononcer, elle vient du clip, en fait, elle a pas mal travaillé avec Beyoncé, donc il y a une ambiance un peu à la fois contemplative, un peu comme un long clip de R&B dans la description des paysages, sans que ça soit péjoratif, c'est-à-dire il y a un côté plutôt atmosphérique qui joue sur le côté sensoriel, avec la bande-son qui est de Devenant Hines, qui est un artiste assez connu dans le R&B, qui est un groupe dont j'ai oublié le nom, mais Devenant Hines, mais qui est les amateurs de R&B qui nous écoutent sauront de qui on parle. Bon, en tout cas, c'est cette bande-son R&B, donc c'est plutôt quelque chose d'apaisant, même s'il y a la menace latente par rapport à la cavale. Et comme dans le Bonnie and Clyde de Arthur Penn, en fait, il y a aussi l'aspect où la dangerosité du couple vient plus des médias, en fait, de la retranscription qu'en font les médias que de leurs actions en soi, vu que, à part le crime initial qui dérape au début, finalement, ils ne font pas grand-chose de violent. Mais il y a le prisme des médias, la manipulation des médias qui font qu'on les associe à des dangereux criminels. Et justement, en plus, ça appuie sur le rapport à la police, vu que voilà, tout au long du film, la police a relativement la détente aussi un peu trop facile. C'est-à-dire, il n'y a pas de... La sommation n'existe pas, on le verra.
Les États-Unis, quoi.
Ouais, enfin, on le verra voilà, sans trop spoiler, mais jusqu'au bout du film, on comprend que voilà, la sommation, c'est pas quelque chose qui n'est pas vraiment intégré. Donc, voilà, donc c'est un film très, très riche, très intéressant, très bien interprété, surtout en particulier, mais j'étais assez... scotché par Jodie Turner Smith, hein, qui, par son évolution au long du film, a vraiment pas beaucoup de charisme. Bon, Daniel Kaluuya, on le connaissait déjà depuis Get Out. Donc,
elle, c'est pas elle dans Beale Street ? Je me trompe.
C'est pas, je l'ai découverte avec ce film, mais possible. Je sais qu'elle a joué dans des séries, dans pas mal de séries aussi. Elle a joué dans le Néon de Démon de Reft. Elle a un petit rôle dedans aussi, donc... Elle était mannequin aussi, donc elle est pas mal en vue, mais en tout cas là, j'étais vraiment, vraiment impressionné par sa prestation.
Queen and Slim, donc un premier film prometteur, c'est ce qu'on en retient. Merci Justin.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.